Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, salut à tous. Le paddock RMC va débriefer cette 15e manche du championnat du monde et il s'est passé plein de choses. Isaac Hadjar est monté sur le podium. On va parler que de ça, j'ai envie de vous dire. Enfin, pas que de ça, mais beaucoup de ça, parce que c'est un événement extraordinaire. C'est le 5e plus jeune pilote de l'histoire à monter sur un podium. Le français le plus jeune également à monter sur la boîte. Et rien que pour ça, franchement, on mérite de s'éterniser de longues minutes sur ce week-end parfait d'Isaac Hadjar, qui a en plus été un week-end pas linéaire, quoi. Il s'est passé plein de choses, donc on va débriefer sa performance. Il s'est également passé plein de choses dans ce Grand Prix au niveau du championnat du monde. Piastri a 34 points d'avance sur Lando Norris. Max Verstappen est deuxième et c'est la catastrophe chez Ferrari. Bref, on a du grain à moudre, comme on dit. Les ingénieurs sont là. Le team principal, Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Oui, salut mon Nico. Bonjour à tous.
Est-ce qu'on l'a pas eu, notre perf là d'Isaac Hadjar? On disait, on attend maintenant la grosse perf. Elle est peut-être là quand même, hein?
Ah bah, complètement d'accord, tu vois. Je vous le disais depuis le début de la saison, ne pas s'enthousiasmer, attendre la vraie perf, elle est là. Là, c'est le carton plein, c'est parfait. Il a vraiment coché toutes les cases, c'est magnifique.
Les ingénieurs, Jean-Luc, dans ce paddock RMC, Louis Gerbier et Tristan Van den Driche. Salut les gars.
Salut Nico, salut Jean-Luc, salut tout le monde.
Salut Nico, salut Jean-Luc.
Salut Tristan, jeune homme.
On était un peu chez toi, Tristan, non? T'as pas des origines un peu hollandaises, toi, avec ton nom de famille?
Ouais, un peu flamand, etc. Donc c'est vrai que c'était un peu mon deuxième Grand Prix à domicile.
Enfin, c'est vrai que c'est
le seul, vu qu'il n'y a plus de Grand Prix de France. Mais...
Les dunes de la mer du Nord.
les dunes de la mer du Nord. Et au final, on se dit parfois qu'à Zandvoort, il ne se passe pas grand-chose. Là, il s'en est passé des choses. Parce qu'il y a eu des voitures de sécurité, il y a eu une météo un petit peu changeante. Bref, on s'est vraiment régalé et on va tout de suite se plonger dans le débrief de ce 15e Grand Prix de la saison.
Oh my God! Three. Oh my God! Yeah! Yeah! Oh my God!
Magic drive, Isaac. So happy. I hope you ordered the big pancake for tonight.
Oh my God, mate! What have you done?
Oh yeah.
The pace was unreal, mate. Unreal. Oh, thank you, boys. What a car. So yeah, that's my first podium in F1. That's it. we're on the podium. I can't believe it. Wow, we deserve this one, man.
See you on the podium.
Yeah, see you guys. Thanks.
Enjoy it, Isaac. Enjoy it. It is exceptional. Enjoy it. Make the most of it.
Hey, number six. Well done, mate. Well done. Phenomenal drive. Absolutely phenomenal.
Thank you, mate. Thank you so much.
Voilà la radio d'Isaac Hadjar. Bon, on va la monter en longueur, bien évidemment, pour vivre ce moment de joie intense avec lui. C'est irréel, hein. C'est ce qu'il a dit quand il est descendu de la voiture. Avant de vous donner les classements de la course, les gars, je vais quand même vous demander la note de ce Grand Prix des Pays-Bas. C'est notre rendez-vous traditionnel. Je vous rappelle que vous pouvez noter, vous aussi, le paddock RMC sur les plateformes de téléchargement. 5 étoiles, entre 1 et 5 étoiles. Et ben nous, on fait pareil pour les Grands Prix depuis le début de saison. Jean-Luc, quelle note tu mets à cette course?
Écoute, un énorme 4, bien sûr. Ça pourrait valoir plus, mais j'en garde un peu sous la pédale pour plus tard. Tu vois ce que je veux dire?
Les gars, Louis et Tristan?
Je vais vraiment dire 4 aussi, parce que pour moi, on a eu un peu de tout. Et en même temps, ça a été un peu assuré par certaines safety cars qui n'étaient pas forcément utiles. Mais on a eu un peu de tout, presque de la pluie, des changements stratégiques, etc. Donc un très bon 4 et surtout un beau podium.
4,5 parce que le podium d'Isaac fait que à chaque fois, moi, quand il y a un Français, je surnote, parce que c'est quand même ça. Et t'es aidé par les trois safety cars, mais bon, c'est le jeu et ça rend quand même le truc hyper sympa hier, parce qu'il se passe des trucs régulièrement et plusieurs fois dans le Grand Prix, et c'est vrai que c'est ça qui rend le truc un peu sympathique, quoi. Et puis Hadjar, quelle folie, quoi.
C'est clair. En tout cas, on s'est régalé sur cette course avec cette folie Isaac Hadjar. Je vous donne le classement rapidement. Les amis, Oscar Piastri qui s'impose avec 1,3 seconde quasiment d'avance sur Max Verstappen. Isaac Hadjar donc qui complète ce podium. Vous l'entendez, pas de Lando Norris, on y reviendra, mais Lando Norris a dû abandonner à quelques tours de l'arrivée. George Russell est 4e, Alex Albon super remonté, il partait 15e, il termine 5e. Oliver Berman lui aussi, alors lui il partait des stands carrément, 6e, Oliver Berman. Lance Stroll 7e avec Fernando Alonso, 8e, les deux Aston Martin qui rentrent dans les points, Yuki Tsunoda est 9e et Esteban Ocon qui va chercher le point de la 10e place. Il y a eu plein de choses avec les voitures de sécurité, donc vous voyez que le classement peut paraître surprenant. En tout cas, il y a une équipe qu'on n'a pas profité, c'est Alpine, avec Colapinto et Pierre Gasly qui sont hors des points, et bien évidemment la catastrophe pour Ferrari qui a eu ces deux monoplaces qui n'ont pas terminé la course. Voilà pour les principaux enjeux. Au classement du championnat, c'est le plus gros écart de la saison entre Oscar Piastri et Lando Norris. 34 points d'avance entre les deux pilotes McLaren. Verstappen qui s'impose comme le meilleur des autres. Et puis, ça devient compliqué hein, pour les deux Ferrari, 5e et 6e. Isaac Hadjar fait son apparition dans le top 10 de ce classement des pilotes devant les deux Aston Martin au classement des constructeurs. Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, Ferrari conserve sa deuxième place devant Mercedes. Je ne vous parle même pas de l'avance de McLaren. Red Bull est toujours 4e et Racing Bulls avec ce podium d'Isaac Hadjar qui s'empare de la 7e place. Voilà, vous avez toutes les données chiffrées. Jean-Luc, on va se focaliser sur ce podium d'Isaac Hadjar, on le disait tout à l'heure, mais en termes de précocité pour un pilote français, c'est assez incroyable ce résultat. Surtout qu'en plus, il a eu un week-end, il a fait une super qualif, mais il n'avait pas pu rouler toutes les sessions d'essai. Donc on ne s'attendait vraiment pas à le voir monter sur la boîte après la journée du vendredi.
Absolument. Bah, écoute, il a eu un problème en FP2, un problème technique. Hein. Il a à peine bouclé un tour et puis son équipe lui a demandé d'immobiliser sa monoplace sur le bord de cette piste. Donc, il n'a pas pu mettre à profit ces séances toujours importantes, surtout sur un tracé naturel comme celui-là, un tracé difficile avec du vent, avec des conditions atmosphériques changeantes, même si on a peu vu d'eau, finalement, quelques gouttes seulement pendant le Grand Prix qui ont été, on va y revenir évidemment, fatales à Hamilton. Mais bon, je crois qu'il n'a pas eu un parcours effectivement linéaire. Alors, on peut rappeler, il y a tellement de choses à rappeler. Tu disais effectivement le plus jeune pilote français sur un podium. Ben oui, le précédent, contrairement à ce qu'on peut penser, c'était Pierre Gasly, hein, qui était âgé de 23 ans en 2019, lorsqu'il était monté sur un podium. Et puis, tu le disais, le cinquième aussi. Ben, le plus jeune, évidemment, ça reste Verstappen à 18 ans, 7 mois et 15 jours. Ensuite, il y a eu Stroll. C'est un petit peu la tâche dans les stades.
Parce ça, c'est que, bon, fou. Ouais, ça, c'est fou.
Ouais, c'est vrai que c'est fou, mais c'est comme ça. Kimi Antonelli avait 19 ans, Lando avait 20 ans, il était à peine plus jeune que Isaac. Bon, bah c'est remarquable, c'est ce que je disais, c'est un carton plein absolu. Alors bien sûr, on va toujours rétorquer, oui, mais il a fallu effectivement l'abandon de Norris. Oui, mais dans tous les cas, en sport automobile, c'est comme ça, particulièrement en Formule 1. C'est vrai qu'on a tendance maintenant en Formule 1, tellement les défaillances mécaniques deviennent très rares. Hein. Souvent, on a pratiquement la totalité du plateau à l'arrivée, bah, ça arrive encore, la preuve, surtout dans la deuxième partie de la saison, qui est bien entamée maintenant, où on le sait, le nombre d'organes mécaniques est limité. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours de la mer du Nord, ou des dunes, ou de ce que vous voulez, comme bestiole, dans les sables, parce que ça peut être Piastri qui peut être frappé par une casse mécanique lors du prochain Grand Prix à Monza. Vous savez que c'est un tracé où effectivement, on est à fond tout le temps, pratiquement, et des casses mécanique à Monza, si on regarde l'historique, il y en a eu plein. Tiens, il y en a une qui me revient en mémoire, qui avait frappé Alain Prost en plus, qui était en bagarre pour le titre. Donc je crois que dans sport mécanique, il y a mécanique, il ne faut pas l'oublier. Alors là, c'est vrai que la balance, et d'ailleurs, ce que Piastri a dit très calmement, hein, il a dit, écoutez, c'est beaucoup trop tôt, c'est vrai que j'ai un écart considérable, mais si lui abandonne à une reprise ou à une autre, eh bien ça va être effectivement, probablement Norris qui pourra en récupérer. Mais pour revenir sur le sujet principal, bah, Isaac a fait un parcours parfait, il a fait un sans faute. Il a en plus dû maîtriser un Grand Prix tout à l'heure, effectivement, vous le rappeliez, avec 3 restarts, hein, plus un VSC. Donc je crois qu'il n'a pas été vraiment à la fête, entre guillemets. Il a fallu qu'il reste concentré. Et puis, il était dans le sillage d'un quadruple champion du monde qu'il n'a pas quitté de vue. Hein. Il n'a jamais été à plus de 2-3 secondes, je crois, maximum, ouais, pendant tout le Grand Prix. et il a su maîtriser Russell derrière lui et Leclerc derrière lui, c'est quand même pas rien, de costaud dans le haut du championnat. Donc c'est absolument remarquable, j'ai pas d'autres mots. Voilà personnellement l'exploit que j'attendais d'Isaac, il l'a fait, bravo, c'est formidable.
Eh ben on va l'écouter, Isaac Hadjar, au micro de Canal+, le diffuseur, après ce résultat de folie.
C'était intense avec toutes les relances safety car qu'il y avait. Ça voulait pas vraiment se terminer. Honnêtement, les derniers tours, je les ai sentis, que ce soit physiquement et émotionnellement. C'était vraiment compliqué de tenir, mais quand je suis arrivé dans les trois derniers tours, je me suis juste dit de profiter de ces tours. J'étais sous contrôle. Et voilà, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, ça a rechuté et ouais, que de la joie.
Louis, ouais, c'est vraiment cette maîtrise qui a été impressionnante là dans la course d'Isaac Hadjar. Il a su, et Jean-Luc le disait, résister à Russell, résister à Leclerc, être ultra intelligent à chaque fois pour gérer tous ses restarts. Franchement, il a fait une course de patron, quoi. Alors que on le voyait un peu tous s'effondrer, pas forcément s'effondrer, mais on le voyait terminer, allez, 6, 7, 8, avec les pilotes et les machines qu'il y avait derrière lui. Et il a réussi à résister à tout ça.
Ouais, de patron, j'ai bien aimé le mot parce que je trouve que ça correspond bien à cette course. Et quand tu vois justement sur plusieurs restarts la pression que met Russell derrière, il y a des moments, il est vraiment tout proche et il a fait aucune erreur, il s'est pas affolé. Quand Jean-Luc dit qu'il a maintenu Verstappen, oui, mais bon, il a une meilleure voiture que Verstappen, donc c'est normal. Personne réagit.
Non, j'attendais de voir si tu le pensais vraiment. Parce que des fois, on peut le penser.
mais c'est vrai qu'il fait une super course et dans la voix de son ingénieur aussi qu'on a entendu tout à l'heure, on sent plus que de la satisfaction. On sent Pierre Hamelin, voilà, merci. Ouais. Et on sent le côté genre. Ah ouais, quand même, il l'a fait, quoi. Ouais, ok, d'accord. Donc ça confirme bien ce qu'on pensait de lui. Là, il a mis tout le monde d'accord. Alain Prost. Helmut Marko l'appelait le nouveau Prost. Mais là, maintenant, on sentait bien aussi dans les remerciements dans la zone mixte, l'interview qu'il a faite pour le diffuseur Canal, elle a duré hyper longtemps parce qu'elle était interrompue toutes les 10 secondes par un pilote qui venait le féliciter. Et tu sentais sur le visage des pilotes qu'il le considérait, quoi, et qu'il y avait un certain respect. Donc ouais, il a changé de dimension après une course hyper solide sur lequel tous les éléments n'ont eu aucun impact sur sa conduite, quoi. Et donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Et ça prouve tout ce qu'on attendait de lui. Il l'a prouvé hier et comme il l'a dit... Quand certains lui demandaient un peu ce qu'il en pensait, s'il les réalisait ou pas, il disait finalement j'ai toujours rêvé d'être là. C'était un peu le projet, quoi, et que désormais il a.
Je sens que c'était pas une finalité du tout.
Exactement. Il le dit dès hier. Il fait non, mais ouais, c'est incroyable, mais c'était le projet. D'ailleurs, c'était le projet comme on l'a vu sur vous savez en début de saison là, ils avaient tous fait une fiche sur qu'est-ce qu'ils allaient faire cette année, qu'est-ce qu'ils pensaient faire. Il avait dit je serai sur le podium. On s'était dit ah ouais quand même est-ce qu'on y croyait nous pas, peut-être pas vraiment et finalement lui voilà il s'est préparé à devenir champion du monde. Alors on sait jamais si on le deviendra, mais en tout cas lui il est parti dans un mood où il fait tout pour, quoi.
Tristan, la question qu'on se pose maintenant aussi après cette perf d'Isaac Hadjar, c'est tout simplement est-ce qu'il a pas gagné son baquet pour être aux côtés de Verstappen la saison prochaine chez Red Bull? Parce que là, quand même, là, tu te dis que ça va être compliqué de lui enlever le volant avec Verstappen. Hein.
Depuis le début de la saison, il était en train de rédiger le contrat. Et puis, j'ai envie de dire un peu malheureusement, peut-être. Hier, il a officialisé la signature presque. Et c'est d'ailleurs un peu le sentiment que j'ai eu, moi, quand il a fait le podium. Au final, il y avait cette joie absolument incroyable que vous avez quand un Français performe aussi bien en Formule 1. Et en même temps, c'est... cet arrière-goût un peu amer de savoir que voilà, ça y est, en fait, il vient juste de confirmer qu'il allait chez Red Bull l'année prochaine et que si la voiture ne changeait pas, il allait peut-être subir une nouvelle fois le sort Red Bull. Mais très clairement, il a marqué les esprits ce week-end et ce que je voulais surtout mettre en avant dans sa performance, moi, c'était pas la finalité justement de son podium, parce que des podiums en F1, on peut en voir grâce à des circonstances. Comme l'expliquait Jean-Luc, c'est des sports mécaniques, donc il peut y avoir des casse moteurs, il peut y avoir des événements en course qui facilitent un podium. Lui, il a vraiment construit son podium de la qualification à la course. Il a été irréprochable dans son rythme en qualif, mais aussi dans son rythme en course. Il a été absolument parfait et c'est là qu'on voit à quel point Il a pris de la maturité depuis le début de la saison. Et sur les réseaux, on voyait aussi cette image où son premier Grand Prix, il est en pleurs parce qu'il sort la voiture avant même de prendre le départ. À 14 Grands Prix après, il est sur un podium. Et c'est absolument magnifique. Et pour moi, oui, il vient clairement de... En tout cas, si ce n'est pas encore fait, il vient clairement de dire à Helmut Marko et à Laurent Mekies, mais lui, je pense qu'il le savait déjà, qu'il a clairement l'étoffe de quelqu'un qui peut piloter chez Red Bull.
C'est vrai, Jean-Luc, qu'il y a quand même ce sentiment un peu ambivalent de te dire « Bah oui, il va être avec Verstappen l'année prochaine, mais est-ce que c'est pas le choix de carrière ?» Mais c'est même pas un choix pour lui, en fait. Mais est-ce que c'est pas la promotion qui peut pas le flinguer, quoi ?
Écoute, c'est la logique absolue. Certains en rêvaient déjà plus tôt dans la saison. Personnellement, je l'ai dit à plusieurs reprises, il fallait attendre parce qu'effectivement, le baquet est piégé depuis les problèmes de Sergio Pérez l'an dernier, depuis le fait que cette monoplace a perdu une grande partie de sa compétitivité et que le seul pilote du plateau capable de la faire encore avancer, c'est le quadruple champion du monde qui est dedans. Donc effectivement, le mettre à côté cette année avec une monoplace très difficile à exploiter, parce que je crois qu'on a vu également, Tsunoda, c'est pas un mauvais pilote, Liam Lawson non plus. Je rappelle que sur les derniers Grands Prix, il était du niveau d'Isaac. Après avoir digéré effectivement cette punition en quelque sorte, après s'être retrouvé chez Racing Bull, il a retrouvé de la compétitivité. Donc il a affaire à deux pilotes qui ont beaucoup de mal à exploiter cette monoplace aux côtés de Max. Donc le mettre dans le baquet cette année, pour moi, ça n'était pas une bonne idée. L'an prochain, on remet tout à plat. Qui peut savoir quel sera le niveau de performance de la Red Bull ? Absolument personne. Donc il aura en tout cas un nouveau règlement, et ça c'est un atout formidable pour lui également, parce que tous les pilotes vont partir de la même ligne de départ, vous voyez ce que je veux dire. Personne n'a l'expérience de ce type de monoplace, comment la régler, comment exploiter les pneumatiques, puisque tout réside là-dedans. Les pilotes émettent également beaucoup de réserves sur l'exploitation de la puissance électrique. Enfin bon, il y a tout un tas de paramètres à gérer. Pour Isaac, ce sera nouveau, mais ce sera nouveau pour tout le monde. Alors si la Red Bull fonctionne, on va dire correctement, et est beaucoup moins loin, voire pourquoi pas au niveau des McLaren, ça peut être une chance formidable, là encore une fois. Non, il est dans un timing absolument idéal. Il a la fin de saison parfaitement en confiance, et vous avez rappelé la confiance que Laurent Mekies, qu'il connaît bien, place en lui. Donc je crois que oui, c'est qu'une formalité, comme l'évoquait Louis il y a un instant. C'est vrai que là, il a le stylo au-dessus du papier. Tant mieux. Souhaitons que la monoplace soit du niveau et c'est formidable. La trajectoire est idéale. Et puis quoi, on peut rêver encore de podium d'ici la fin de la saison. Mieux, j'y crois pas, parce qu'il faudrait vraiment éliminer les deux McLaren. Mais ça peut arriver aussi. Ils peuvent s'accrocher les deux.
Ouais, c'est clair. De toute manière, ça peut pas se refuser, une opportunité chez Red Bull, les gars.
Ah non, 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 ça peut pas se refuser. Surtout, je pense encore plus quand t'as déjà un contrat Red Bull, en fait. Ça veut dire qu'ils ils disent, mais en fait, Coco, on va pas te laisser le choix. Je te prends, je te mets dans le baguette que je souhaite, et puis t'y vas, tu roules. Je pense que c'est un peu comme ça que ça se fait. Donc là, pour le coup, à Isaac, et puis bon, lui, il est fait d'un bois où il va vouloir y aller. De toute façon, il va vouloir aller au défi. Tu peux pas rester chez Racing Bull toute ta vie, donc faut y aller.
Et puis c'est Franck Montagny qui le disait ce week-end, ça reste un employé Red Bull. Il fait ce qu'on lui demande. Sur son contrat, c'est écrit Red Bull, donc on lui demande d'être dans la Red Bull, il va pas dire non. Et surtout, il a déjà précisé, Isaac, que le challenge Red Bull, lui, il était à fond dedans, et que si on lui proposait, jamais il allait refuser on connaît son mental de compétiteur, parce que c'est vraiment un mental de compétiteur. Et aujourd'hui, sur la grille, il y en a peu qui, je trouve, ont encore cette façon de communiquer, à quel point ils sont confiants dans la façon dont ils peuvent réussir et ils peuvent performer. Lui, il fait partie de ce petit cercle restreint. Et si on lui met le contrat Red Bull sous le nez, j'ai aucune hésitation sur le fait qu'il va le signer en moins de quelques secondes et qu'il va partir au combat pour essayer d'aller titiller Max Verstappen l'année prochaine.
Et puis ce que disait Jean-Luc, c'est le meilleur moment pour y arriver, la nouvelle réglementation, parce que du coup, tu nivelles un peu, Verstappen, ça fait pas 4 ans qu'il a développé chaque pièce de la voiture et qu'il monte dedans tous les week-ends. T'arrives dans une nouvelle voiture avec lui, ça peut te permettre de prendre un peu moins cher vite, quoi.
Et même presque au-delà, une nouvelle équipe, parce que ce que Red Bull est en train de faire, c'est aussi de construire une nouvelle équipe avec de nouveaux ingénieurs, une nouvelle direction. Le départ de Christian Horner, il ouvre la porte à plein de nouvelles choses. Et justement, c'est vrai que ce timing est assez exceptionnel pour Isaac, et c'est le timing que beaucoup auraient rêvé. Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alex Albon, c'est le genre de timing qu'ils auraient rêvé, mais que probablement Isaac va réussir à avoir, et tant mieux.
Est-ce que c'est pas là, j'étais en train de me demander là, Jean-Luc, est-ce que c'est pas la plus belle émotion qu'on a vécue depuis le début de saison là, cette histoire de podium d'Isaac Hadjar?
Oui, bien sûr. Bah, c'est normal. De toute façon, en tant que Français, on soutient nos pilotes, hein, et on sait que pour des raisons diverses et différentes, d'ailleurs, malheureusement, du côté d'Ocon et de Gasly, on n'est pas toujours à la fête pour le moment. Donc c'est vrai que il s'est positionné, je l'ai dit, après les deux grands prix successifs, hein, Monaco et l'Espagne, comme étant le Français potentiellement le plus performant. Là, il concrétise par ce podium. Ça rappelle un peu ce qu'a fait Antonelli au Canada, il faut le rappeler quand même, hein, aussi, puisqu'on on parle de rookie. Bon, il a une Mercedes, je sais bien, mais le niveau de la Mercedes est très variable. Ensuite, bah, lui aussi, il a marqué un petit peu le pas. Je crois que c'est normal dans la formation d'un pilote aussi jeune d'avoir effectivement des succès formidables, des réussites formidables, et puis après de se prendre ou légèrement les pieds dans le tapis ou ne pas pouvoir tout mettre ensemble. Bon, bah, là, il l'a fait, Isaac, de la plus belle des manières, encore une fois, et il le mérite largement. C'est pour ça que l'ensemble des autres pilotes, ce qu'évoquait Louis, je crois, ou Tristan, qui venaient le féliciter, c'est de bon cœur, parce qu'ils se disent, ils le reconnaissent vraiment, non seulement comme un des leurs, ça s'est fait depuis le début de la saison, mais comme quelqu'un qui maintenant peut être un habitué des podiums, et pourquoi pas au volant de cette Racing Bull jusqu'au terme de la saison, parce que la monoplace est manifestement dans le coup. Là on ne peut pas dire le contraire. Hein. D'ailleurs, elle se bat, vous le savez bien, pour la cinquième place. Hein, on peut dire qu'ils ne sont pas si loin que ça de Williams, même si Williams, avec 80 points maintenant, a pris une belle option, mais il reste quand même 9 Grands Prix. C'est absolument énorme. Hein. Quand vous pensez que par équipe, on peut marquer au minimum 43 points, donc c'est quand même pas rien, et plus quand il y a des sprints. Donc, tout peut encore arriver, et je crois que... Non, il est... Écoute, on se répète un petit peu, il est sur une trajectoire absolument magnifique. Il a une confiance en lui qui a été... Bah, évidemment, ébranlé en début de saison, non, peut-être pas la confiance en lui, mais il s'en voulait à mort, on peut dire, vraiment, après cette bévue en Australie, après cette erreur en Grande-Bretagne. Et c'est comme ça qu'on se reconstruit, et c'est comme ça qu'on apprend. Ça s'appelle tout simplement l'expérience, parce qu'on apprend plus de ses échecs que de ses succès.
Et je regardais les stats là, sixième fois qu'il termine dans le top 10, hein, Isaac Hadjar, depuis le début de la saison. Donc oui, il y a eu un vrai creux à partir du Canada, mais globalement, en termes de régularité, c'est quand même super solide depuis le début de saison. Les gars, on va se plonger aussi dans l'autre grand événement de ce Grand Prix des Pays à Zandvoort. C'est ce scénario de dingue entre Lando Norris et Oscar Piastri. Oscar Piastri, on l'a dit, 34 points d'avance désormais au championnat, qui a réalisé une qualification mais incroyable. Et le pauvre Lando Norris qui a eu un problème de fiabilité à quelques tours de l'arrivée. Louis, qui a été obligé de laisser sa McLaren sur le bord de la piste. On en parlait dans le warm-up de jeudi dernier, d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez vous replonger dedans. Et c'était
qui a osé ne pas l'écouter?
Ouais.
Dites-les non.
T'as raison, on va commencer à être menaçant, t'as raison, avec les gens qui écoutent pas. T'as raison. Mais non, mais toi, tu me disais, bah, ça peut être vraiment un week-end charnière. Alors nous, on était plus sur le côté,
ouais.
Si Norris gagne, ça peut vraiment impacter Piastri. Et c'est vrai qu'on n'avait pas trop pensé à ce scénario-là. Mais là, Norris qui fait zéro avec ce scénario terrible où c'est seulement à quelques kilomètres de l'arrivée là, qu'il voit sa voiture qui ne peut pas terminer.
Et il le sent venir, hein, il le sent venir parce qu'il dit, oula... Petite odeur bizarre là, et il dit ça smell funny, c'est jamais bon quand ça sent bizarre dans une...
C'était pas les barbecues des fans de Max Verstappen sur le côté.
Ouais. Et donc il l'a vu venir, j'ai trouvé assez flegmatique à la radio parce que bah, tu joues un championnat quoi, et déjà c'était pas un très bon résultat de finir deux puisque le premier c'était son concurrent direct, finir à zéro pointé, ouais ça donne... Voilà, tu te dis, bon, maintenant, moi, je vais continuer à faire mes courses et le seul moyen pour rattraper, en gros, c'est que lui arrive la même chose une fois sur les 9 derniers pour nous remettre à zéro. Mais sinon, c'est vrai que ça, ça, ça fausse entre guillemets le truc, puisque ça, comme l'avait dit Tristan, c'est un sport méca, donc ça arrive, et voilà, bon, c'est tombé sur lui. Ça peut aussi inquiéter l'écurie globalement, parce que quand une voiture, quand t'as une panne moteur un peu comme ça, tu peux te dire, faut identifier le pourquoi, sinon il peut y en avoir une le week-end prochain, et ça peut être un souci. Mais pour revenir sur Lando, le pilote à qui il arrive ça, j'ai trouvé sa réaction très saine. Et d'un gars qui justement.
Tiens, tu veux qu'on l'écoute? Allez, tu veux qu'on l'écoute, et je te redonne la parole.
I mean, there's not much I can do, so.
Je peux pas y faire grand chose, hein. Faut juste encaisser. Et c'est tout ce qu'on peut faire. C'est frustrant parce qu'on avait une bonne fiabilité depuis 2-3 ans. Je me rappelle même pas de la dernière fois où on a eu un problème, particulièrement en qualification ou en course, donc c'est pour vous dire.
Unlucky. Nothing more than that.
Malchanceux. Rien de plus que ça. Sinon, la course était bonne, le rythme était vraiment bon. Je me sentais assez bon pour mener la course. Mais c'était juste impossible de dépasser ici. Donc, ce n'était pas mon week-end. C'est vrai qu'il est. Ouais, il est zen. T'as raison. Ouais, lui, il est classe, quoi.
Ouais, il prend le truc comme il faut le prendre de toute façon. Et surtout, je trouve que ça peut dénoter un peu de ce mieux mental qu'il a depuis justement quelques mois maintenant par rapport à son début de saison. On voit quelqu'un, d'apaisé, qui sait à peu près où il va. Si ça ne marche pas pour une raison à laquelle pas grand monde peut quelque chose, en tout cas lui n'y peut strictement rien, il le prend avec fatalité. Et je pense que c'est la meilleure manière. Et je pense qu'il a quand même suffisamment les boules pour avoir les dents qui vont rayer le plancher sur le Grand Prix d'après. Et voilà, maintenant il faudra attendre. Au minima, une erreur de Piastri ou voir carrément une panne moteur, un truc, enfin un zéro pointé, quoi.
Jean-Luc, c'est un peu tôt peut-être pour en parler, mais ça ressemble quand même au vrai tournant de la saison. En tout cas, c'est une date qu'on va forcément cocher dans cette saison 2025.
Bien sûr, Nico, bien sûr. Alors, dernier abandon pour lui sur problème mécanique, c'était le Brésil 2022, hein, j'ai regardé. Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est tellement loin, ça fait quasiment 3 ans, lui-même s'en rappelait plus. Et puis, comme je l'évoquais, la fiabilité de ces monoplaces est absolument remarquable dans la majorité des cas, sauf en deuxième partie de saison où, effectivement, on est en limite de matériel, on est en limite de potentiel de changement. D'ailleurs, souvent, vous savez, on recycle des moteurs ou des boîtes qu'on a sorties, qu'on a mis de côté en début de saison. Donc, on peut assister, encore une fois, dans les 9 Grands Prix qui restent, à ce genre de scénario. Alors, on ne le souhaite jamais. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Oscar Piastri tout de suite, avec beaucoup d'élégance et je suis certain de sincérité. Il a dit, on n'aime pas gagner comme ça. En plus, rappelons quand même qu'ils sont restés très proches l'un de l'autre, hein, pendant tout le Grand Prix. L'écart n'a jamais excédé les 2 secondes, pratiquement. Malgré tout, les rebondissements, les événements qu'il y a eu, ça veut dire que Lando était là tout le temps. Lando était là, donc lors des 3 séances d'essai libre, c'est lui qui avait été le plus rapide. Et puis, Oscar a sorti évidemment le tour qu'il fallait en qualif. On peut lui faire confiance, mais ils sont tellement proches l'un de l'autre. C'est tellement une histoire de bras de fer et ça va tellement se juger. Et là, ça n'en est pas une sur les petites erreurs des uns ou des autres. Il faut rendre là aussi le carton parfait, ce qu'a fait Oscar. Et il faut lui rendre hommage aussi, évidemment. Pour nous, on a beaucoup parlé de la performance d'Isaac et c'est normal, mais là, c'est une très très solide performance d'Oscar Piastri au bon moment. Tant mieux que ces deux-là nous régalent encore jusqu'à la fin de la saison avec leurs affrontements. Tant mieux qu'on les laisse se battre. Je crois que je le dirai jusqu'au terme de cette saison parce que c'est l'intérêt du championnat. Les autres ne peuvent faire que des fulgurances. Et on voit bien que malgré tout son talent et chez lui, là aussi, Verstappen absolument n'a rien pu faire à part cette attaque qui était quand même, on va le rappeler, qui était quand même de toute beauté dans le premier tour, juste après le départ, en ayant choisi une montre pneumatique extrêmement audacieuse, il faut bien essayer quelque chose parce que j'allais dire à matériel égal, c'est-à-dire à pneumatique égal, il n'y a rien à faire contre les McLaren. Donc il faut bien tenter des coups. Moi je ne désespère pas que le bras de fer se poursuive et je ne souhaite surtout pas à Oscar de connaître un problème mécanique de cette nature, mais j'espère que l'écart va se réduire jusqu'au bout et qu'on aura un final magnifique.
Excuse-moi Nico, mais le troisième virage au premier tour de Verstappen, là, vous pensez sur la grille, il y a combien de pilotes qui ne la perdent pas la voiture à ce moment-là?
Un seul.
Ouais. Bah, je suis pas loin de penser pareil, parce que moi, au moment où je le vois prendre le sable et chasser là, je me dis ok, il s'est foutu dedans au troisième virage, et je le vois récupérer la voiture et finir le virage devant Norris, et je me dis non mais c'est pas vrai, comment il a fait ça encore lui. C'était incroyable.
Ah, il est exceptionnel. Oscar Piastri au micro de Canal+, qui c'est vrai a été lui aussi très classe, notamment envers Lando Norris, son coéquipier.
I think mostly happy, yes. You know, obviously for Lando,
je suis plutôt heureux, oui, bien
team,
sûr. C'est terrible pour Lando, c'est dur pour l'équipe de ne pas faire un doublé. Mais de mon côté, la course est parfaitement déroulée.
You know, we made all the right calls.
On a fait les bons choix.
Made all the right calls, had pace when we needed.
On a fait vraiment tous les bons choix, on avait le rythme qu'il fallait, je me suis senti en contrôle de cette course. Donc je suis vraiment très heureux de ce côté-là. Et c'est bien d'égaler le nombre de victoires de Marc Weber. Ah oui, oh, il a même fait un peu d'humour, Oscar Piastri.
Ouais, là, il est au maximum.
Ah, un humour à la Kimi Raikkonen. Hein.
C'est le frère de Troupi, ce que tu disais, non?
Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la première fois qu'il est un petit peu dans la déconne, si on peut dire, l'ami Oscar. Tristan, non, mais c'est une course ultra solide d'Oscar Piastri, qui a notamment sorti un tour là, en qualif monumental. Pareil, je reste un peu sur ce que je demandais au gars, Tristan, mais ça ressemble vraiment à un vrai tournant de la saison, même si on a tous envie de voir cet écart se réduire. 34 points d'écart au championnat, ça a jamais été aussi important, hein, l'écart entre les deux depuis le début de saison.
Ouais, et puis pour revenir juste d'abord sur la performance d'Oscar Piastri, niveau statistique, c'est son premier grand chelem. Qualification, victoire, meilleur tour en course, tous les tours menés de la course. Dans un grand prix aussi chaotique, c'est assez sympa de voir qu'au final Oscar réussit à faire le grand chelem, et puis c'est là aussi on voit toute la domination McLaren, puisqu'ils ont eu le temps à chaque fois qu'il y avait une safety car de faire les doubles arrêts, etc., tellement ils étaient en avance sur tout le monde. Mais un tournant du championnat, oui. En même temps, c'est pas la première fois qu'on voit Norris en bas entre guillemets, ou baisser la tête. Au Canada par exemple, il fait aussi une erreur assez grosse qui lui fait perdre énormément de points, et il arrive à revenir dans les basques de son coéquipier. Après, moi, ce que j'ai vu surtout sur ce Grand Prix, c'est une nouvelle fois le nouvel épisode de cette série interminable de Oscar Piastri qui mène un Grand Prix, et Lando Norris qui ne tente rien, qui n'arrive pas à être plus proche que 7 secondes, qui n'arrive pas à rentrer dans le DRS, ou en tout cas, s'il est dans le DRS, qui n'arrive pas à tenter quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut tenter n'importe quoi, comme par exemple Piastri en Autriche, mais en tout cas, il n'a pas essayé. J'ai l'impression qu'il sentait qu'il était moins bon ce week-end, et que du coup, c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on ne le voit pas si déçu que ça, parce que il a accepté un peu le sort, ça arrive, une casse moteur. Mais je ne pense pas qu'il soit par contre dans un état d'esprit où le championnat est joué, parce que clairement 34 points, ça va très très vite, surtout cette saison quand on voit à quel point c'est serré entre les deux. Donc impatient de voir la suite, même si là il prend quand même un assez gros coup sur la tête, Lando Norris, mais on sait qu'il peut se relever, il l'a montré cette saison. Et puis surtout, Oscar Piastri n'est pas à l'abri de faire une ou deux erreurs, parce qu'il a aussi fait des erreurs cette saison.
Ouais, clairement. Pas beaucoup quand même. Mais c'est vrai qu'il en
a fait. Mais il en a fait. Il fait toujours des petites erreurs parfois, notamment en qualif. On prend un exemple. En qualif, à Monza, on peut faire une erreur à cause du trafic. Ça peut nous mettre très très loin sur la grille. Donc moi, je reste très alerté par cette bataille au championnat qui, je pense, va quand même nous réserver de belles surprises.
Ah, c'est bien, vous m'avez remis un petit peu de baume au cœur, parce que moi je suis arrivé, je me suis dit, c'est terminé là, cette lutte au championnat. Non, j'y croyais pas vraiment, mais je me dis que. Non, je grossis un peu le trait, mais c'est vrai qu'on aurait tellement aimé que ça joue là dans cet écart de 10 points jusqu'à la fin. Mais c'est le sport mécanique.
Mais il faudra quand même peut-être que Lando Norris élève un petit peu encore son niveau de pilotage pour espérer revenir, ou en tout cas passer.
Le bémol que je mettrais sur la course d'hier pour Lando, c'est sur les restarts. Il a été. Inoffensif. Alors c'est peut-être Piastri peut-être Piastri qui les a réussi parfaitement, hein. Mais c'est vrai que quand tu domines le début de week-end, que t'es quand même là, t'es dans le game, et qu'on t'offre trois fois la possibilité de te remettre dans la boîte de vitesse de Piastri, tu te dis bon. Alors ça reste Zandvoort et tu peux pas, c'est pas voilà. Mais j'ai trouvé Russell et Verstappen respectivement plus menaçants à chaque restart sur le pilote de devant que Norris l'était sur Piastri.
Ouais, je vous trouve un peu dur, hein, les gars, si je peux me permettre. Hein, parce que depuis son erreur du Canada, il avait tellement bien récupéré. S'il, bon là c'est pas de sa faute, s'il avait pas cassé, il terminait 2. Ça veut dire que sur les 5 derniers Grands Prix, il avait 3 victoires et 2 deuxièmes places. Je vous trouve un poil dur. Alors oui, il a pas tenté quelque chose, mais à Zandvoort, le circuit est tellement étroit, avec de la poussière, on l'a vu, les meilleurs, le meilleur absolu dans toute l'histoire du championnat du monde se fait piéger en mettant une roue sur le mouillé, sur la peinture. Bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup à perdre et finalement assez peu à gagner. Alors c'est vrai qu'il n'a jamais été en réelle posture d'attaquer, mais a-t-on vu beaucoup réellement de vrais dépassements? Je sais, il y en a eu beaucoup à la fin, vous allez me dire après le restart, mais on n'était pas sur la même valeur de pneumatique, hein, vous le savez bien. C'est pour ça que Pierre Gasly s'est effondré, par exemple, et que les autres l'ont tous passé. À part, je le disais, et puis Norris, il a repris Verstappen quand même. Ça si je peux me permettre.
Ouais, et puis alors, pas n'importe comment.
Et pas n'importe comment. Donc, quand il est en mesure de le faire, il le fait. Non, je vous trouve un poil dur. Moi, je crois pas qu'il soit si loin. Je crois que psychologiquement, il a fait le boulot. Bon, après, il était effondré, on le comprend bien, dans les dunes, mais il l'a gardé pour lui. J'avoue que ça va être dur, hein, parce que le Rock, c'est Piastri, on l'a toujours dit, le tueur froid. Mais je pense que c'est pas perdu.
En fait, pour rebondir, Jean-Luc, j'ai plus été déçu par peut-être le manque de prise d'initiative, même dans la stratégie, même si au final, ils ont fait forcément tous les bons choix, parce que c'était les bons choix à faire, il fallait s'arrêter à chaque fois. Bon, hein. Mais il y avait une telle avance de McLaren, je me suis peut-être dit, Lando, il va peut-être essayer quelque chose, ou en tout cas, il va peut-être dire à son équipe, au moins, alors on n'a pas toutes les radios, bien sûr, hein, mais au moins essayer de se dire, est-ce qu'on peut se décaler un peu avec Oscar pour tenter quelque chose? Parce qu'ils étaient tellement proches que justement, par exemple, un undercut aurait pu fonctionner ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas eu j'ai eu plus cette position attentiste de Lando Norris qui m'a un peu plus déçu sur ce point que vraiment sa performance, parce qu'on sait que les deux ont une performance presque équivoque, en tout cas sur ce week-end, on l'a vu. Et encore une fois, oui, il a dominé le début de week-end, et puis en qualification, il lui manque ses 12 millièmes. 12 000, et où les 12 millièmes changent probablement tout le week-end. Ouais. Et c'est ça qui est aussi impressionnant.
Le vent qu'il a eu de face, alors il n'a pas pleuré, il n'a pas dit c'est à cause de ça, mais c'est vrai que ça suffit. Hein. Une rafale de vent dans la ligne droite,
la Nico
tu perds un tout petit peu, c'est 12 millièmes, c'est clair. Puis je ne sais pas si tu as entendu, à un moment, son ingénieur lui a dit, là, nous, on ne peut plus rien faire, va falloir y aller. Alors tu parlais de stratégie, d'undercut, mais avec tous les rebondissements qu'il y a eu dans ce Grand Prix, tu sais, il restait peu de place finalement pour une stratégie, j'allais dire, énergique de la part d'un pilote ou d'une équipe, hein, parce que c'est ce sont finalement les événements qui ont dicté les arrêts, les changements. Donc voilà, je crois que oui, c'est une parenthèse dans tous les sens du terme. On va voir à Monza.
Bon, j'ai fait un très mauvais jeu de mots pour notre troisième thématique, mais je vais vous le faire quand même. Parce que souvent Ferrari, mais hier, fait rappeleur.
Ah yes. Ah ouais.
Souvent fait rappeleur en ce moment surtout.
Ah ouais. Étonnant, mais comment fait-il? Quel talent. Non,
c'est dramatique pour lancer la saison
mais
comme ça.
Il y a quelqu'un qui t'écrit tes textes ou quoi?
Malheureusement non, mais il vaudrait mieux des fois. Il vaudrait mieux avoir un auteur.
C'est au niveau de la Scuderia Ferrari cette saison.
C'est peu au niveau de la Scuderia, c'est vrai, c'est pas faux, avec deux voitures qui ne franchissent pas la ligne d'arrivée dans des circonstances complètement différentes. Hein. Il y a eu une erreur de Lewis Hamilton, Jean-Luc en parlait, qui a mis sa roue sur le mouillé et qui s'est mis dehors. Et puis Charles Leclerc qui s'est fait percuter par Andrea Kimi Antonelli. On parlait de dépassement pendant la course. J'ai vu quand même, Jean-Luc, des manœuvres de Charles Leclerc à Zandvoort, là, notamment sur les pilotes Mercedes. Mais incroyable, des tentatives de dépassement par l'intérieur, par l'extérieur. Ah oui. Pour le coup, il était vraiment Charles Leclerc lancé dans une course sur un vrai rythme. Et lui aussi, avec Norris, c'est le vrai malchanceux de ce week-end aux Pays-Bas.
Ouais, absolument. Alors celle-là, je l'ai gardée évidemment pour la bonne bouche, pour l'attaque au virage numéro 11 où normalement il y a rien qui passe. Lui, il avait quasiment les quatre roues. C'était bien d'ailleurs la remarque de Russell. Mais est-ce qu'il était bien sur la piste? Parce que bon, finalement, apparemment, ça passe comme ça. Parce qu'en plus après, il a été éliminé. Et puis c'est un peu un coup à toi, un coup à moi, hein, comme finalement Antonelli plus tard dans le Grand Prix a viré Leclerc. Donc allez, on dit rien pour ça et tu dis rien pour ça. En gros, je la fais simple. possible. Alors oui, il a tout essayé, Charles, comme d'habitude. Il a tenté, il n'avait pas la monoplace pour le faire. Il partait là aussi. L'an dernier, il avait réalisé une belle performance, hein, parti 5e, terminé 3, si je me rappelle bien. Là, il partait 6e. Il était aussi à sa place, hein. Il a fait ce qu'il a pu et il ambitionnait... Je ne sais même pas s'il a eu l'ambition réelle à un moment d'attaquer Isaac, parce qu'il a fait des manœuvres d'intimidation, plusieurs. Y a-t-il eu une véritable attaque? Moi, je réponds non. Il n'a pas été en mesure de le faire non plus, parce que sa monoplace ne lui permettait pas. Et puis Isaac était ferme, hein, sur la trajectoire, à l'intérieur, partout. Il avait élargi les coudes et ça ne passait pas. Donc, après, il n'est malheureusement pas payé, puisqu'il se fait sortir de la manière que l'on connaît. Et là aussi, il n'a pas accablé, Kimi en disant... et il a 18 ans, là aussi, c'est une erreur à ne pas commettre à nouveau. Et puis pour élargir, la Bérésina de Ferrari, juste avant Monza, là, c'est dramatique. Là, une nouvelle fois, je vais utiliser toutes les précautions oratoires d'usage. Ça me fait de la peine de devoir dire ça, de Lewis Hamilton, mais avec les 92 milliards de Grands Prix auxquels il a pris part, se faire piéger en mettant une roue sur une surface peinte quand il tombe 3 gouttes d'eau, c'est inadmissible pour un septuple champion du monde. Je suis désolé, ça n'est pas admissible. Voilà, tout est dit.
Ouais, partagez l'avis de Jean-Luc, les gars. C'est surtout que... C'est pas la première depuis le début de saison, l'erreur individuelle de Lewis Hamilton.
Non, c'est pas la première. Et puis justement, on s'est dit peut-être que cette pause estivale va lui permettre de remettre les pendules à l'heure et de se reconcentrer à 100% sur le championnat. Mais c'est une erreur où, un petit peu à la. Alors, c'est la comparaison n'est pas à prendre, hein, mais à la Lance Stroll, c'est-à-dire inattention. Voilà.
Mais qui est sorti deux fois d'ailleurs pendant les essais.
Voilà, il fait. C'est-à-dire qu'il fait deux fois dans ce virage une erreur sur le week-end, il me semble. Il la perd deux fois sur ce virage. Et puis une troisième fois en course. Donc il la prend pas. Et puis il sort des stands. Il pense probablement à autre chose. Et puis il met la roue sur. C'est vraiment une erreur bête.
Il
une erreur
plus,
de.
Quoi,
ouais, une erreur de quelqu'un qui est plus attentif à ce qu'il fait, on a l'impression. Donc c'est triste à voir. C'est aussi des erreurs qui peuvent arriver sur une saison.
Premier abandon, je crois, avec la Scuderia.
Ferrari avait une statistique, il me semble, c'était ces deux pilotes qui avaient terminé tous les tours ou quelque chose comme ça depuis le début de la saison, et donc cette stat n'existe plus. Mais c'est que la première grosse erreur où il casse la voiture à ce point-là, on va dire, depuis le début de la saison, donc on va pas non plus l'accabler. Mais c'est, comme le dit Jean-Luc, triste à voir pour Lewis. Et après, pour Charles, j'ai envie de relever surtout du week-end de Charles ces dépassements qui sont absolument exceptionnels, parce que pour moi, ce qu'il tente sur Russell, déjà au premier virage, au troisième virage, pardon, au premier tour, où il lui fait un intérieur-extérieur absolument exceptionnel, il lui dit « je vais aller là-bas, au final je vais là », enfin... Revoyez le handboard, parce que c'est vraiment du pur pilotage sur un circuit à l'ancienne. Et puis alors ce deuxième dépassement aussi où j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi on a voulu essayer de trouver des pénalités à mettre à qui que ce soit, parce que pour moi c'est comme ça que ça doit se piloter, c'est comme ça qu'on doit avoir des courses de sport automobile, ça fait partie du sport, voilà, c'est un peu musclé, mais qu'est-ce que c'est beau à voir. Et ça montre aussi à quel point ce Charles Leclerc, pour moi, est avec Max Verstappen l'un des meilleurs pilotes en attaque-défense à ce point-là. C'est absolument comment il construit ses dépassements, c'est magnifique à voir et ça fait plaisir à voir, un petit peu à l'ancienne. Je voyais des comparaisons à la Gilles Villeneuve, un petit peu, il me semble, sur les réseaux.
Ah, c'est vrai, ça le mérite. Ouais.
Sur
ou à la Ayrton Senna.
Voilà, sur un circuit à l'ancienne dans une Ferrari où certains comparaient un peu ces dépassements ce week-end à la Gilles Villeneuve, un peu agressif et instinctif. Mais et puis Kimi Antonelli, ça arrive. Il a fêté ses 19 ans et tout le monde fait des erreurs. Comme l'a dit Jean-Luc, Charles n'a pas non plus relevé, n'a pas non plus relevé à ce point-là.
Il n'a pas du tout chargé.
Kimi est allé s'excuser auprès de la Scuderia Ferrari. C'était une image assez sympa à voir aussi. On a vu la Scuderia qui ensuite lui apportait du soutien sur l'un de ses posts sur les réseaux. Donc voilà, un week-end encore une fois oublié malheureusement pour Ferrari, mais du positif à retenir en tout cas sur le talent d'un pilote. Mais ça, on n'a même plus besoin de le préciser, Charles Leclerc.
C'est quoi, Louis, là, qui prédomine après ce week-end Ferrari? C'est le fait que Leclerc avait la capacité de faire beaucoup mieux et t'as de la malchance qui s'accable un peu sur lui. C'est vraiment un des signaux que la saison, elle est pas bonne. Ou quand même, la grosse info, c'est que Lewis Hamilton, il il passe encore à côté. Hein. Il a encore dit en zone d'interview qu'il avait hâte de rentrer à la maison. Ça, d'ailleurs, c'est des déclats qui me.
Oh, à chaque oui, fois, c'est, choquant, hein. C'est choquant.
Ouais, qui me choque un peu. Qui me choque un peu. Quand tu dis ça une fois, peut-être, ok, mais quand un week-end sur trois, t'as déclat à la fin, c'est que tu veux pas parler à la presse et t'as juste envie de dire j'ai hâte de rentrer à la maison.
Surtout quand Monza arrive après.
Ouais, en plus, ouais, ça choque mal, un peu, Louis.
Ouais, bah moi j'en parlais déjà jeudi. Je crains malheureusement qu'il n'y ait pas vraiment de réaction et qu'il n'y en ait plus trop, même, et qu'on assiste à un chant du cygne, voilà, une fin de règne, plus qu'une fin de règne, parce qu'en fait le règne il est fini depuis un moment, mais tu peux ne plus être le premier et encore être impressionnant ou quoi. Et c'est vrai que. Bah, en ce moment, soit il fait une copie, une bonne copie correcte, mais qu'un autre pilote aurait fait, ou soit il fait des choses un peu en dessous, quoi. Donc c'est clair que quand tu parles de Lewis Hamilton, ça va pas ensemble, quoi. Normalement, il fait partie du top niveau, donc c'est ça qui est un peu dur à voir. J'ai toujours un peu l'envie de croire à une voiture 2026 qui peut jouer la gagne et que du coup ça redébloque quelque chose là-haut dans sa tête, parce que c'est vrai que je trouve quand même assez surprenant de le voir devenir un pilote lambda, quoi.
Oui, et puis même mentalement, même si la voiture cette année avait l'opportunité de jouer des victoires, on a l'impression qu'en fait même s'il pouvait jouer des victoires, en est-il toujours capable, donc c'est ça qui est surtout triste en fait.
Ouais. Clairement, désolant. Et en plus de ça, il a pris 5 places sur la grille pour Monza.
En plus.
Et, oui.
Et quelle erreur. Mais alors là,
une erreur stupide.
Non,
là
mais
aussi.
Oui, et puis alors là, par contre, moi, j'aimerais refaire une remarque sur les commissaires. Parce que ça arrive 30 minutes avant le départ du Grand Prix. Et on n'est pas capable de mettre cette pénalité pour le Grand Prix qui arrive. Mais on va le mettre pour le Grand Prix dans une semaine. Moi, ça, je comprends pas. C'est quelque chose quand même où il faut. Et puis alors, la pénalité de Carlos Sainz, c'est pareil. Les 10 secondes là.
Je crois que je peux te répondre, Tristan. Là, c'est les règlements. C'est comme ça. Tu sais, à la FIA, il y a tellement de règlements dans tous les sens. Tu ne peux pas, comme en l'occurrence, ça s'est produit, on est bien d'accord, hein, pendant le tour de mise en grille, c'est exactement ça. Eh bien, tu ne peux pas appliquer à la grille présente, si tu veux. Parce que la grille officielle, elle est publiée une heure avant, tu sais.
Non, mais au moins lui mettre
tu veux dire un drive-through.
Je sais pas, un drive-through, un stop and go,
ouais.
Voilà. Quelque chose où au moins on subit l'erreur, parce que surtout, on a eu l'information que Lewis Hamilton était sous enquête avant le début du Grand Prix. C'est-à-dire qu'il. C'est pas comme s'ils avaient vu ça à la suite du Grand Prix. Non, ils l'ont vu.
Alors, Tristan, juste pour expliquer à nos auditeurs, ceux qui n'ont pas forcément suivi la course à fond, il n'a pas respecté la réduction de la vitesse sous régime de double drapeau jaune, Lewis Hamilton.
Oui, c'est dans le dernier virage avant la grille. Hein.
Exactement, dans le dernier virage avant la grille.
Il a réduit de 20 km/h sa vitesse. Oui, mais c'est dangereux en plus, parce qu'il a une panne de frein. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, mais allez
voir. Il ramasse tout le monde sur la grille.
Alors, par contre, c'est totalement mérité. Hein. Et d'ailleurs, l'excuse de ne pas lui mettre. Parce qu'en fait, normalement, il aurait dû prendre 10 places. Mais on lui met que 5 places parce que apparemment il aurait quand même freiné un petit peu, mais pas assez. Il arrive à une vitesse parce qu'il y a les photographes, il y a tout ça sur.
C'est très dangereux.
C'est très très dangereux.
Comme tu le disais tout à l'heure, mais qui est dans la voiture? C'est son frangin là, c'est pas possible. Non mais il n'y est plus. Sérieusement, il n'y est plus. Ça c'est plus grave que tout. Je pense que la fin de saison va être longue pour lui et pour tout le monde, et encore une fois pour nous aussi, hein, parce que c'est douloureux de dire ça d'un type qu'on admire avec un tel palmarès. C'est vraiment, on peut parler de fin de carrière là, je crois que je me trompe pas beaucoup. Est-ce qu'il sera là? D'ailleurs, la question doit se poser, je pense que plusieurs se la posent.
Mais j'allais te la poser Jean-Luc, est-ce qu'on peut sortir pour la saison prochaine Lewis Hamilton de son baquet?
Alors, je vais te répondre, il y a deux choses. La première, c'est contractuellement, parce que tu sais que c'est quand même une énorme histoire de pognon, tout ça.
Enfin, bah oui.
Je l'ai dit depuis le début, une nouvelle fois. Regardez les déclarations d'Hamilton quand il nous a dit « j'ai toujours rêvé d'aller chez Ferrari ». Faux, mensonge. Si vous trouvez une déclaration, je veux bien ne pas avoir fouillé les 20 dernières années, mais une déclaration où il dit « Ah, mon rêve, c'est de terminer ma carrière chez Ferrari », c'est faux. Il a toujours dit « Mon rêve, c'est de terminer ma carrière chez Mercedes et d'être l'ambassadeur à vie de Mercedes ». Voilà ce qu'il a dit. Alors après, pour des raisons d'opportunité, et tant mieux, encore une fois, l'histoire était belle, hein. Il a signé avec la plus grande équipe du plateau de la Formule 1, de l'histoire de la Formule 1, c'est formidable, le meilleur pilote, le pilote emblématique, mythique, tactique dans la meilleure équipe, c'était une histoire fantastique sur le papier. Et puis on a compris quand même relativement rapidement, et encore une fois, c'est pas la petite victoire dans la coursinette en Chine qui va changer quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'était une opportunité, il l'a fait, mais même pour les pilotes, ça compte pas, ça, c'est vraiment, c'est rien du tout. C'est le vrai Grand Prix qui compte, avec la vraie pole, etc. Donc ça ne masque pas cette saison absolument désastreuse, où il est encore une fois ultra dominé, pour ne pas dire écrasé par son équipier. Et puis vous vous souvenez, j'avais sorti les stats, je les ai pas très loin, hein, sur justement ce qu'on fait à chaque fois qu'un champion du monde en titre déjà multititré est venu chez Ferrari, bah c'est lui qui fait le moins bien, et de loin, par rapport à Alonso, pour prendre dans l'histoire récente, et par rapport à Vettel. Donc il y a un souci. Il y a un souci, je pense, bah, de motivation, je vais oser le dire. Alors, je réponds à ta question, Nico, je ne l'ai pas oublié. Est-ce que c'est possible de le débarquer d'un commun accord? Oui. D'un côté ou de l'autre, je pense que ça va être très difficile, parce que Ferrari voudrait-il le remplacer d'abord par qui, hein, je pose la question différemment. Par Isaac Hadjar? Non, c'est pour rire.
Par Pierre Gasly.
Par Pierre Gasly, par un autre pilote. Alors, est-ce que c'est possible? Je pense que contractuellement, non, parce que les sommes en jeu sont absolument colossales, parce que Hamilton, je le dis et je le répète à l'envi, a négocié un contrat comme personne n'en avait jamais eu avant lui, y compris chez Ferrari, y compris Schumacher, avec des sommes colossal et avec des intérêts croisés, avec des projets à long terme, avec probablement, je dévoile rien, c'est même pas un secret, évidemment qu'il va y avoir une Ferrari qui devait s'appeler, j'allais presque dire Lewis ou Hamilton ou ce que vous voulez, avec évidemment des royalties pour lui. Enfin bon, tout ça est très compliqué. Alors, c'est trop tôt pour dire tout ça. Je pense qu'on va tout faire des deux côtés pour continuer au moins en 2026. Alors maintenant, si en 2026, ça se passe aussi mal, on peut le dire carrément, là oui, là on peut dire que sa carrière, elle s'arrêtera là, c'est évident. Mais là, on peut parler de... Moi, j'ai parlé déjà de catastrophe industrielle, ben je le répète.
Ouais. Puis, Ferrari aurait trop à perdre à virer Lewis Hamilton. Autant, entre guillemets... laisser le cette fois
financièrement.
Non mais puis en termes d'image,
si t'es une institution forte et une écurie forte, le mec il est pas bon au bout d'un moment, bah t'essaies de trouver une solution pour le sortir.
Tu rappelles Sainz.
Mais non, mais parce qu'en fait si tu laisses,
et t'es pas obligé de le faire salement, Tristan, tu
non,
peux essayer
sûr.
De le sortir proprement, voilà,
dans
le commun
accord,
ça l'a pas fait, voilà,
ça
quelle communication pour rien. Alors si c'est le cas, si c'est il est viré au bout d'un an, waouh, mon Dieu. Non, mais je pense qu'il va quand même continuer en 2026. Mais
oui,
et sincèrement, j'espère du fond de mon cœur le voir exceller en 2026, parce que ce serait quelque chose de simplement magnifique à voir, de voir le meilleur pilote dans l'écurie la plus mythique réussir au sommet. Mais peut-être qu'il a encore cette étincelle, mais il faut absolument la rallumer, et la rallumer très vite, parce que là, c'est en train de devenir catastrophique.
Après, il suffira d'une étincelle, hein, comme disait Johnny.
Suffit d'un très bon résultat sur la fin de saison pour peut-être raviver justement quelque chose. Donc, on n'est pas à l'abri de... Voilà, par exemple, à Monza, on n'est pas à l'abri de voir quelque chose. Mais en tout cas, la situation à l'heure actuelle, elle est bien triste.
Tu sais, moi, je me dis quand même que t'as beau être le meilleur de tous les temps, la fin de l'histoire n'est pas tout le temps magnifique et tu vois, très belle, quoi.
C'était la phobie de Zidane, hein, de partir trop tard, la saison de trop.
Partout, la saison de trop.
Exactement. Voilà. Peut-être pour ça, d'ailleurs, lui, qu'il était parti à la base un peu trop tôt, pour l'équipe de France, et qu'il était revenu, justement, parce que je pense que c'est tellement arrivé à un niveau de « je ne veux pas la faire, celle-là ». Et on le sait, hein, dans le sport, c'est la grande question.
Savoir se retirer à temps.
Fallait faire une Nico Rosberg en 2020, en fait.
Les gars, oui, juste rapidement, parce qu'il s'est quand même passé encore plein de choses, je voulais vous entendre sur Albon et sur Oli Berman, là, qu'on fait une superbe remontée, Louis. Très belle course, une nouvelle fois, d'Alex Albon, qui lui fait une super saison, et Oli Berman aussi, avec As, hein, globalement, parce que As met ses deux voitures dans les points, alors que la séance de qualif avait été super compliquée. Bah, ils ont encore réussi en course à aller chercher des points, As.
Bah, y a un truc qui est inquiétant quand même, c'est que dans ces équipes de deuxième partie de tableau, on a l'impression que tout le monde va mieux et cohérent, sauf Alpine. C'est les seuls à... Mais c'est vrai qu'il y a des voitures qui commencent à comment dire, à délivrer quelque chose de suffisamment correct pour être là. Et comme on a vraiment, je pense, un plateau de très haute qualité avec que des top pilotes, bah, tout de suite, dès qu'ils ont une voiture qui leur permet d'eux, bah, ils le font. Et donc, ça fait des courses au moins où il se passe des choses à tous les niveaux et où chaque bataille est importante. Et c'est vrai que cette dixième place hier... Pendant un demi-tour après le restart, on s'est dit que peut-être que Gasly, qui n'était pas rentré, allait pouvoir tenir comme ses Zandvoort, comme ses, et c'est dur de doubler, tout ça. Et puis en fait, Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, ça s'est complètement écroulé, il n'y avait rien à faire. Et donc du coup, c'est Ocon qui va la chercher. Mais Albon, moi, il ne me surprend pas en fait, parce qu'Albon, ça fait longtemps maintenant qu'il est à 100%. Enfin, il sort à chaque fois quasiment le meilleur. Il fait une belle erreur, on va dire, deux fois par an. Et sinon, tout le temps, c'est quand même très propre. Donc, non, ça ne me surprend pas. Et puis Ocon, bah, moi, je lui souhaite toujours d'avoir une voiture qui peut enfin lui permettre de montrer des choses. Mais bon, là, c'est pas mal, mais ce n'est pas encore une voiture qui te permet de remonter la pente, on va dire. C'est quand même toujours, lui, depuis quelques temps, compliqué. La fin d'Alpine, plus le début de Haas. Tu te dis clairement que lui, c'est un meilleur pilote que ses dernières voitures, et c'est dommage, quoi.
Alex Albon qui a le même total de points que Antonelli avec sa Mercedes, hein. Et Esteban Ocon qui est 13e du championnat. Voilà, avec 28 points. Bon, il est pas loin. Hein.
Ah oui, et Berman, j'ai vu une petite vidéo marrante pour les fans de F1 comme nous là. Allez la voir, je sais plus sur quoi, c'est sur YouTube, vous la trouverez. Il fait une course de kartes déguisée en vieux. Il est déguisé en vieux et pendant les qualifs, il fait exprès d'être nul. Et il part dernier. Et le but, c'est de terminer la course premier. Et les gars, ils sont persuadés d'être face à un petit vieux. Et en fait, c'est Oli Berman dans le kart. C'est assez sympa à voir.
Ouais,
c'est un peu ce qui va se passer avec Ferrari. En fait, il va remplacer le vieux.
Ouais, il va remplacer Hamilton.
Juste un mot, Nico, si tu permets. Je sais qu'on a mangé beaucoup de temps. Sur Albon, c'est remarquable. D'abord, 8e au championnat, tu l'as dit à l'instant, Louis, à égalité avec Antonelli, hein, 64 points. Il a marqué à 10 reprises. Il a eu son petit trou d'air, lui aussi. C'était Espagne, Canada, Autriche. Mais je pense que c'est la monoplace là, qui n'était pas dans le coup. Et puis surtout, qui aurait pensé qu'il écraserait Sainz de cette manière ? Sainz, là aussi, 16 points. Alors qu'on 16 points, ouais. Connaît son talent, hein, puisque, encore une fois, il était du niveau de Charles, hein, globalement, l'an dernier. Là, il est largué. Alors, l'adaptation, il n'a pas eu de chance non plus. Il a eu des problèmes. Mais bon, à un moment, ça va, quoi. Je veux dire, Albon fait un boulot remarquable. Et là il a réalisé un Grand Prix absolument fantastique, parce que partir 15 et finir 5, c'est génial. Et puis, j'englobe, Nico, tant que j'ai le micro, j'allais dire, Berman, c'est génial. Il part des stands, hein, Berman. Il part des stands, il s'arrête une fois au 54e tour, il termine 6e. Et puis, vous allez me voir venir, mais ça fait rien, je le dis quand même. Stroll, après avoir mis deux fois la monoplace dans le rail ou dans le bac à sable, bah, il termine 7e, il termine devant Fernand. C'est quand même, il est étonnant, ce garçon. Hein. Autant, je veux dire, le personnage est irritant, désagréable et stupide, mais quand il est au volant, parfois, il a des fulgurances, hein, quand même. Stroll, 11e au championnat, quand même. Hein.
C'est vrai qu'il est 11e au championnat, là, Stroll.
Ouais.
Mais ça a scotché tout le monde.
Le classement de ce Grand Prix.
Ah, ça calme, hein. Ouais.
Le classement de ce Grand Prix au-delà de la 4e place, il est quand même très marrant, je trouve. Enfin, si t'as pas vu le Grand Prix, tu fais ah, d'accord, ok, bon, bah pourquoi pas, hein, écoutez. Mais non, une grosse performance d'Albon. Il me semble que Alex Albon gagne 5 places dans le premier tour ou 6 places.
C'est ça. Ouais, c'est il est 10e à l'issue du premier tour.
Voilà, il est 10e à l'issue du premier tour sur un circuit comme Zandvoort. C'est assez exceptionnel, je trouve. Et ce qui est aussi exceptionnel, c'est la façon dont Williams progresse dans l'indifférence totale. C'est-à-dire que Williams est en train de devenir, au classement, la 5e force du plateau. Et personne n'en parle, ou presque. Ils font leur petit bout de chemin avec un James Vowles qui est absolument exceptionnel dans son rôle de team principal, qui fait un boulot monstre. Et en fait, 2026 pour Williams, bah, ça va être une année d'ambition. Et je trouve ça incroyable pour une écurie qui était au bord de la faillite il y a encore 3-4 ans. Donc,
c'est vrai que ça bosse bien.
Ça fait vraiment plaisir pour Claire Williams et la famille Williams là, de voir à quel point cette équipe fonctionne.
Sinon, Yuki Tsunoda marquait des points. C'était la première fois depuis 8 courses, je crois.
Ouais. Il doit être déçu de voir Isaac sur le podium et lui de le voir végéter.
Lui, il va être où l'année prochaine?
Ça doit être très dur pour lui.
Tu penses qu'il peut faire l'aller-retour?
Oui, je pense. Bon, ce serait trop dur de gâcher un tas. Bon, ou alors il sort du giron Red Bull, mais.
Et puis Laurent l'aime bien. Hein, Laurent Mekies l'aime bien. Il l'estime. S'il fait 2-3 perfs, oui, ouais, absolument. Ben, il peut y avoir un. Ouais. On peut les roquer.
Bon, les gars, merci beaucoup. En tout cas, il s'est passé plein de choses hein, dans ce Grand Prix des Pays-Bas avec ce podium d'Isaac Hadjar, le premier podium français. Bah ouais, non,
c'est vrai que ça ferait rire. Rire. Bah, c'est l'éclat de rire de la fin.
Pour une fois, pour Alpine, il suffit d'écouter Flavio Briatore ce week-end qui explique qu'on est les seuls à avoir à être passé sur 2026 et on pensait pas être les seuls. Du coup, bah, on est un peu comme des cons. En espérant que ça se transforme, qu'ils transforment leur stratégie l'année prochaine en ayant pris de l'avance.
S'ils sont encore là.
À ce point-là, s'ils sont encore là.
24 points de retard sur As.
Moi, je te fous mon billet qu'il est en train de préparer la vente, mais depuis le début. Hein, mais bon, on verra. Mais non, mais oui, ça va s'appeler. Est-ce que ça mérite encore le nom d'Alpine entre vous et moi ? Bon, ça, c'est merci. Sûr. Voilà.
Bon, en tout cas, merci pour tout. Warm-up jeudi, hein, parce que Monza, ça arrive dès ce week-end avec Jean-Luc sur RMC, bien sûr. Vous aurez tous les horaires jeudi, donc restez connectés. Les petites notifications, les petites notes. Le paddock RMC est présent aussi sur les réseaux sociaux avec la page Instagram RMC Formule 1. Voilà, vous avez des vidéos du podcast et plein de petites news sur la Formule 1. Donc restez connectés avec nous et on vous dit à jeudi. Bye bye les gars.
Ciao,
salut à tous.
L'équipe.
Le paddock RMC.